Chapitre 4. Une interview. J'ai rappelé avec détail les circonstances de l'arrivée de l'étranger à Haiping, afin que le lecteur puisse comprendre la curiosité qu'excita cet homme. Mais, sauf deux incidents bizarres, son séjour jusqu'à la fête du village peut être brièvement raconté. Il y eut bien quelques escarmouches avec Madame Hall à propos de questions domestiques. Cependant, chaque fois, jusqu'à la dernière dispute en avril, dès qu'il voyait poindre les premiers symptômes de ladrerie, il lui imposait silence par l'expédient commode d'une indemnité spéciale. Hall n'aimait point son hôte, et toutes les fois qu'il l'osait, il parlait de la nécessité de se débarrasser de lui. Mais il dissimulait son antipathie avec soin, et le plus possible évitait l'inconnu. « Prenez patience jusqu'à l'été, » répétait sagement Madame Hall, « jusqu'au moment où les artistes commencent à venir. Alors nous verrons. Il est sans doute bien arrogant. Mais il n'y a pas à dire, une note ponctuellement payée est une note ponctuellement payée. » L'étranger n'assistait pas aux offices et ne faisait aucune différence entre le dimanche et les jours de la semaine. Il travaillait, d'après Madame Hall, très irrégulièrement. Quelquefois, il descendait de très bonne heure et il paraissait très affairé. D'autres jours, il se levait tard, il arpentait sa chambre, il s'agitait bruyamment des heures entières, il fumait, il dormait dans son fauteuil auprès du feu. De communication avec le monde hors du village, il n'en avait aucune. Son humeur demeurait très inégale. Le plus souvent, ses manières étaient d'une irritabilité presque insupportable. Souvent, des objets furent brisés, déchirés, écrasés, broyés dans des accès de violence. Son habitude de se parler tout bas à lui-même allait augmentant. Mais quoique Madame Hall écoutât avec soin, elle ne pouvait trouver ni queue ni tête au discours qu'elle entendait. Le voyageur paraissait rarement le jour, mais au crépuscule, il partait bien enveloppé, la figure encapuchonnée, que le temps fût froid ou chaud, et il choisissait les chemins les plus solitaires et les plus ombragés ou les plus encaissés. Ses gros yeux, dans son visage de spectre, sous le bord du chapeau, émergeaient soudain de l'obscurité, apparition désagréable pour les habitants qui rentraient au logis. Teddy Henfrey, sortant vivement un soir à 9h30 de l'habit rouge, fut honteusement effrayé par la tête de mort du voyageur. Il se promenait le chapeau à la main, qu'une porte ouverte à l'improviste mit en pleine lumière. Tous les enfants qui le voyaient à la chute du jour rêvaient de fantômes. On ne savait pas s'il craignait les gamins plus qu'il n'en était craint, ou inversement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de part et d'autre antipathie profonde. Il était inévitable que dans un village comme Haiping, un personnage d'allure si originale et de mœurs si singulières fût souvent le sujet des conversations. Sur l'emploi de son temps, l'opinion était très divisée, Madame Hall étant sur ce point très susceptible. À toutes les questions, elle répondait que c'était un faiseur d'expérience, et elle appuyait à peine sur les syllabes en personne qui craint de se compromettre. Lui demandait-on ce qu'était qu'un faiseur d'expérience, elle répliquait, avec un petit ton de supériorité, que les gens instruits savent cela, et elle ajoutait alors qu'il découvrait des choses. Son client, affirmait-elle, avait eu un accident qui, pour un temps, lui avait décoloré le visage et les mains. Il tenait à ce qu'on ne le remarquât point. Malgré ses dires, il y avait une idée généralement admise, à savoir que c'était un criminel s'efforçant d'échapper à la justice et s'enveloppant de mystères pour se dérober à l'œil de la police. Cette idée avait germé dans la cervelle de M. Teddy Henfrey. Pourtant, à la connaissance du public, aucun crime important n'avait été commis vers le milieu ou la fin de février. Perfectionnée par l'imagination de M. Gould, l'instituteur adjoint, cette croyance prit une autre forme. L'étranger était un anarchiste déguisé qui préparait des matières explosives. Et M. Gould entreprit, autant que ses loisirs lui permettaient, de le démasquer. Ses opérations consistaient surtout à dévisager le bandit chaque fois qu'il se rencontrait, ou à interroger des gens qui, n'ayant jamais vu l'inconnu, ne savaient pas de quoi on leur parlait. Ils ne découvrirent rien du tout. Un autre parti suivait M. Fearnside, et l'on admettait que le voyageur était pie ou quelque chose dans ce goût-là. Ainsi, par exemple, Silas Durgan affirmait que, si le phénomène voulait se montrer dans les foires, il ferait fortune rapidement. Étant un peu théologien, il le comparait à l'homme de la parabole qui n'avait qu'un seul talent. Toutefois, une autre opinion encore avait cours. L'étranger était un maniaque inoffensif. Ceci avait l'avantage de tout expliquer. Mais entre ces deux principaux groupes, il y avait les esprits hésitants et les esprits conciliants. Les gens du Sussex ont peu de superstition, et ce ne fut qu'après les événements des premiers jours d'avril que le mot de surnaturel fut pour la première fois chuchoté dans le village. Même alors, d'ailleurs, il n'y eut que des femmes pour admettre cette idée. Quoi que l'on pensât de lui, tout le monde à Iping s'accordait à ne pas aimer cet étranger. Sa nervosité, compréhensible pour des citadins adonnés aux travaux intellectuels, était pour ces placides villageois du Sussex un objet d'étonnement. Ses gesticulations furieuses, qu'il surprenait de temps en temps, sa démarche précipitée quand la nuit bien tombée l'invitait aux promenades tranquilles, sa manière de repousser toutes les avances de la curiosité, son goût pour l'ombre qui le conduisait à fermer ses portes, à baisser ses stores, à éteindre ses bougies et ses lampes, qui donc ne se fût préoccupé de pareilles allures. On s'écartait un peu quand il descendait le village, et quand il était passé, les gamins moqueurs relevaient le col de leurs vêtements, rabattaient les bords de leurs chapeaux, emboîtaient le pas derrière lui, singeant sa démarche mystérieuse. Il y avait à cette époque une chanson populaire intitulée « Le croque-mitaine ». Mademoiselle Satchel l'avait chantée au concert de l'école, au profit de l'éclairage du temple. Depuis lors, toutes les fois que plusieurs villageois étaient réunis, si l'étranger venait à paraître, les premières mesures de cet air partaient du groupe, sifflées plus ou moins haut. Aussi, le soir, les enfants criaient-ils sur son chemin « Croque-mitaine !» quitte à décamper aussitôt prudemment. Cass, l'empirique du pays, était dévoré par la curiosité. Les bandages excitaient son intérêt professionnel. Les mille et une bouteilles éveillaient sa jalousie. Pendant tout avril et tout mai, il souhaita une occasion de parler à l'étranger. Enfin, aux environs de la Pentecôte, n'y tenant plus, il imagina comme prétexte une liste de souscriptions en faveur d'une infirmière communale. Il découvrit alors avec étonnement que M. Hall ignorait le nom de son hôte. « Il a donné un nom, affirmation tout à fait gratuite, mais je ne l'ai pas bien entendu, » déclara Mme Hall, tant il lui semblait bête de ne pas être mieux renseigné. Cass frappa à la porte du salon et entra. Un juron parfaitement net lui répondit de l'intérieur. « Excusez mon importunité, » dit Cass. Puis la porte se referma, empêchant Mme Hall de saisir la suite de la conversation. 10 minutes durant, elle perçut le murmure des voix, puis un cri de surprise, un remuement de pied, la chute d'une chaise, un éclat de rire, des pas rapides, et Cass reparut, la face blême, regardant par-dessus son épaule. Il laissa la porte ouverte, et, sans y faire attention, il passa en courant dans la grande salle et descendit les marches. Elle entendit le bruit de sa course précipitée. Il tenait son chapeau à la main. Elle restait debout derrière son comptoir, les yeux tournés vers le salon. L'étranger sourit tranquillement, puis ses pas traversèrent la pièce. Mais elle ne put voir sa figure de l'endroit où elle était. La porte du salon battit violemment et la scène redevint silencieuse. Cass alla tout droit chez Bunting, le pasteur. « Suis-je fou ? » cria-t-il brusquement. En pénétrant dans le petit cabinet de travail, « ai-je l'air d'un fou ? » « Qu'est-il donc arrivé ? » interrogea le pasteur, en posant une ammonite sur les feuilles volantes de son prochain sermon. « Cet individu de l'auberge. Eh bien, donnez-moi quelque chose à boire, » continua Cass, et il s'assit. Quand ses nerfs furent calmés par un verre de sherry à bon marché, la seule boisson que put offrir le brave pasteur, il lui parla de la visite qu'il venait de faire. « J'entrai, » dit-il, haletant, et je lui demandai son obole pour l'infirmière que nous voulons avoir. Il avait fourré ses mains dans ses poches. Il se laissa tomber lourdement sur sa chaise. Il huma l'air. « J'avais appris, ajoutai-je, qu'il s'intéressait aux choses de la science. » Il fit « oui », et il renifla de nouveau. Il continua, d'ailleurs, de renifler tout le temps. Évidemment, il venait d'attraper un rhume infernal. « Ce n'est pas étonnant, vêtu comme il l'est. » Je débitais mon histoire d'infirmière en même temps que j'observais. Partout des bouteilles, des produits chimiques, une balance, des éprouvettes. Dans l'air, une odeur de prime vert. Consentait-il à souscrire ? Il répondit qu'il verrait. Alors, de but en blanc, je lui demandais s'il faisait des recherches. Il me dit que oui. Longues, ces recherches? Le voilà qui se fâche. Des recherches diablement longues, clame-t-il comme s'il faisait explosion. Oh, m'écriai-je, voilà l'origine de la scène. Mon homme était à bout de patience, ma question le fit éclater. On lui avait donné une formule extrêmement précieuse. Pourquoi faire? Il ne voulait pas le dire. Était-ce une ordonnance? Que le diable vous emporte, mêlez-vous de vos affaires. Je m'excuse. Il prend un air digne, tous reniflent et se calment. Il va lire sa formule, 5 éléments. Il la pose sur la table. Il tourne la tête. Un courant d'air venu de la fenêtre soulève le papier. Un souffle, un bruissement. Travailler dans une chambre avec une cheminée allumée, dit-il. Je vois une lueur, et voilà l'ordonnance qui prend feu et qui s'envole. Lui, de se précipiter, au moment précis où elle passait dans le tuyau. Alors, dans son émotion, voilà son bras qui sort. « Hein ?» fit Bunting. « Pas de main, rien qu'une manche vide, seigneur. » Je pensais, c'est une difformité. Il a, je suppose, un bras artificiel, et il l'aura perdu. Il y avait là évidemment quelque chose de singulier. Pourquoi diable cette manche reste-t-elle en l'air s'il n'y a rien dedans? Et il n'y avait rien dedans, vous dis-je. Rien, du haut en bas. Mon regard plongeait jusqu'à l'épaule, et un peu de jour passait par une déchirure du vêtement. « Bon Dieu ! » m'écriai-je. Alors il s'arrêta. De ses gros yeux blancs à fleur de tête, il jeta un regard sur moi, puis sur sa manche. Ensuite, c'est tout, il ne dit pas un mot. Ses yeux brillèrent, et rapidement il enfonça la manche dans sa poche. « Je disais donc, reprit-il, que ma formule brûlait, n'est-ce pas ? » Il poussa un grognement d'interrogation. « Mais comment diable, demandai-je, pouvez-vous remuer une manche vide ?»« Une manche vide ? Oui, une manche vide. »« C'est vide ?» À l'instant même, il se leva. Je me levai aussi. « Et donc, une manche vide ? Vous avez vu que c'était une manche ?» 3 pas, il fut auprès de moi. Il renifla méchamment, je ne branchai point. Pourtant, je veux être pendu si cette grosse boule, avec ses bandeaux et ses œillères, marchant sur vous tranquillement, n'avait pas de quoi faire perdre contenance à n'importe qui. « Vous avez dit, je crois, continua-t-il, que c'était une manche vide ?»« Oui, je l'ai dit. » Moi, je recule épouvanté devant cette énergumène, la figure découverte, sans lunettes, me dévisageant. Tout doucement, il retire sa manche de sa poche et tend son bras vers moi, comme pour me le montrer de nouveau. Il fait cela très, très lentement. Je regardais, cela dure un siècle. « Eh bien, répétai-je, faisant effort pour parler, il n'y a rien dedans. » Il fallait bien dire quelque chose. Je commençais à avoir peur. Je pouvais voir jusqu'au fond de sa manche. Il l'avançait vers moi, lentement, lentement, comme ceci, jusqu'à 6 pouces de mon nez. C'est une chose étrange, allez, de voir une manche vide se tendre ainsi vers vous. Alors, quelque chose comme un index et un pouce me pinça le nez. Bunting se prit à rire. Il n'y avait rien dedans, s'écria Cass, et sa voix s'éleva en un cri perçant sur ce dedans. C'est facile de rire, mais je vous l'assure, j'étais si affolé que je frappais violemment cette manche. Je me retournai, je m'enfuis de la chambre, je le plantai là. Cass s'arrêta. Il n'y avait pas à se méprendre sur la sincérité de sa terreur. Il tournait sur lui-même, dans un état de grande faiblesse. Il but un second verre du mauvais sherry de l'excellent ministre. Quand je frappai la manche, ce fut tout à fait comme si je touchais un bras. Il n'y avait pourtant pas de bras, pas l'ombre de bras. Bunting réfléchit. Il regardait Cass avec inquiétude. « C'est une histoire bien curieuse. » Il avait pris un air très prudent et très grave. « En vérité, répéta M. Bunting avec l'emphase d'un juge, c'est une histoire bien curieuse. » Chapitre 5. Un voleur au presbytère. Les détails du vol commis au presbytère nous ont été rapportés en grande partie par le pasteur et sa femme. Il fut commis à l'aube, le lundi de la Pentecôte, jour consacré à Iping, à des réjouissances publiques. Madame Bunting s'éveilla tout à coup, dans le silence qui précède l'aurore, avec la conviction que la porte de leur chambre à coucher avait été ouverte puis refermée. Elle n'appela pas son mari tout de suite, mais elle s'assit sur son lit et tendit l'oreille. Elle distingua alors le sourd « poum, poum, poum » de pieds déchaussés sortant du cabinet de toilette contigu et suivant le corridor dans la direction de l'escalier. Dès qu'elle en fut bien sûre, elle secoua le plus doucement possible le révérend M. Bunting. Il ne frotta point d'allumettes. Il mit ses besicles. Il passa la robe de chambre de sa femme. Il enfila ses pantoufles et alla sur le palier pour écouter. Il entendit très bien remuer en bas dans son bureau. Puis un éternuement sonore. Il rentra dans sa chambre, se munit de la première arme qui lui tomba sous la main, le tisonnier, et descendit l'escalier en prenant 1000 précautions. Madame Bunting resta sur le carré. Il était environ 4 heures du matin. Ce n'était déjà plus la profonde obscurité de la nuit. Une faible clarté régnait dans le vestibule, mais le cabinet de travail, dont la porte était entrebâillée, était noir. D'ailleurs, silence absolu, rien que le léger craquement des marches, sous les pas de M. Bunting et dans le cabinet de vagues bruits. Alors un tiroir fut ouvert, on perçut un froissement de papier, puis un juron, une allumette frottée, et la pièce fut éclairée d'une lumière blonde. M. Bunting était à ce moment dans le vestibule, et à travers la fente de la porte, il pouvait voir le meuble ouvert et une bougie allumée. Mais le voleur, il ne l'apercevait point. Il restait là, dans le vestibule, ne sachant que faire. Madame Bunting, blême et haletante, s'était glissée jusqu'en bas, derrière lui. Une considération leur donna du courage, la conviction que le cambrioleur était un habitant du village. Ils entendirent un tintement. Ils comprirent que le voleur avait trouvé l'or mis en réserve pour les dépenses du ménage, en tout 2,5 livres. Cela décida M. Bunting à brusquer les choses. Ayant assuré le tisonnier dans sa main, il s'avança, suivi de près par Madame Bunting. « Rendez-vous » cria-t-il avec colère. Mais il s'arrêta stupéfait. La pièce semblait parfaitement vide. Cependant, il venait d'y entendre remuer quelque chose. Leur certitude était absolue. Pendant une demi-minute, peut-être, ils restèrent ébahis. Puis Madame Bunting traversa le cabinet et regarda derrière le paravent, tandis que son mari, par une inspiration semblable, regardait sous le bureau. Madame Bunting secoua les rideaux de la fenêtre. M. Bunting inspecta la cheminée, l'explorant avec le tisonnier. L'un fouilla la corbeille à papier, l'autre le seau à charbon. Enfin, ils finirent par s'arrêter et demeurèrent confondus, s'interrogeant mutuellement des yeux. « J'aurais pourtant juré, » fit Madame Bunting. « Mais la bougie, » s'écria M. Bunting. « Qui a allumé la bougie ?»« Le tiroir, » reprit Madame Bunting, « et l'argent a disparu. » Elle se précipita vers la porte. C'est bien là le cas le plus extraordinaire. Il y eut un formidable éternuement dans le corridor. Ils y coururent. Au même instant, la porte de la cuisine battit avec violence. « Apportez la bougie !» ordonna M. Bunting. Et il s'avança. Il y eut un bruit de verrou rapidement repoussé. Comme il arrivait à l'entrée de la cuisine, le pasteur vit que la porte de l'office s'ouvrait également et que les premières lueurs de l'aurore baignaient les masses sombres du jardin. Il était certain que personne n'était sorti par là. Pourtant, la porte s'ouvrit, resta ouverte un moment, puis se referma bruyamment. En même temps, la bougie que Madame Bunting avait apportée du cabinet tremblota et jeta un éclat plus vif. La cuisine était déserte. Ils visitèrent à fond le garde-manger, l'office, et enfin descendirent à la cave. Ils eurent beau chercher, personne dans toute la maison. Le jour surprit le pasteur et sa femme au rez-de-chaussée, tous deux bizarrement accoutrés, continuant à ne rien comprendre, éclairés par la lumière bien inutile d'une bougie qui coulait. « C'est bien le cas le plus extraordinaire, » recommença le pasteur pour la 20e fois. « Mon ami, » dit Madame Bunting, « voilà Susie qui se lève. Attendons pour remonter qu'elle soit dans sa cuisine. » Chapitre 6. Le mobilier qui danse. Or, aux premières heures de ce même lundi de la Pentecôte, avant que Milly ait été tirée de son grabat par le jour, Monsieur et Madame Hall descendirent à la cave. Affaire d'ordre privé, il s'agissait de baptiser leur bière. Ils y étaient à peine quand Madame Hall s'aperçut qu'elle avait oublié d'apporter une bouteille de salse pareille. comme c'était elle qui officiait, ce fut Hall qui remonta. Sur le palier, il fut surpris de voir entrebâiller la porte de l'étranger. Il entra dans sa chambre, à lui, et trouva la bouteille à la place indiquée. Mais, en revenant, il observa que la porte d'entrée n'était plus verrouillée. Il se souvenait cependant, et très nettement, d'avoir tenu la bougie pour éclairer Madame Hall lorsque, le soir, elle avait poussé les verrous. Dans une lueur soudaine d'intelligence, il fit un rapprochement entre ce fait, la chambre de l'étranger ouverte là-haut, et les hypothèses de Teddy Henfrey. Il s'arrêta au comble de l'ahurissement. Puis, sa bouteille à la main, il remonta l'escalier. Il frappa chez l'étranger, pas de réponse. Ayant frappé de nouveau, il entra. Comme il s'y attendait, vide le lit, vide la chambre. Et, chose inouïe, sur la chaise et sur le bord du lit étaient en désordre les vêtements de l'hôte, les seuls vêtements qu'on lui eût jamais vus, ainsi que ses bandeaux, et même son grand et lourd chapeau que l'on voyait planté sur la colonne du lit. Comme il se tenait là, la voix de sa femme sortit des profondeurs de la cave, avec cette manière d'avaler rapidement les syllabes et de hausser jusqu'à une note aiguë les derniers mots d'une interrogation, par laquelle le paysan du comté de Sussex a l'habitude de marquer son impatience. « George, tu as trouvé ?» À cet appel, il tressaillit et sortit précipitamment. « Jenny, lui dit-il par-dessus la rampe de l'escalier, « c'est vrai ce que disait Henfrey. Il n'est pas dans sa chambre, il n'y est pas, et la porte de la rue n'est pas verrouillée. » D'abord, Madame Hall ne comprit pas, mais dès qu'elle eut saisi, elle voulut voir par elle-même la chambre vide. Hall, tenant toujours sa bouteille, commença par redescendre jusqu'en bas. S'il n'y est pas, ses vêtements y sont, et que peut-il faire sans ses vêtements? Ma foi, c'est bien singulier. Comme ils remontaient, tous deux, ce fut reconnu exact par la suite, ils crurent entendre la porte de la rue s'ouvrir et se refermer. Pourtant, la voyant close, rien n'apparaissait d'anormal, ni l'un ni l'autre à ce moment-là n'en dit un mot. Madame Hall dépassa son mari dans le corridor et arriva en haut la première. Quelqu'un éternua dans l'escalier. Hall, qui suivait à six pas, crut que c'était sa femme. Elle, étant au-dessus, s'imagina que c'était lui. Elle poussa violemment la porte et s'arrêta sur le seuil de la chambre. « Ah bien, en voilà une affaire !» s'écria-t-elle. Il lui semblait qu'on reniflait tout près derrière sa tête. S'étant retournée, elle fut surprise de voir que Hall était encore sur la dernière marche, éloigné d'une douzaine de pas. Mais en une seconde, il l'avait rejointe. Elle se pencha et mit sa main sur l'oreiller, puis sous les couvertures. Froid. Il est levé depuis une heure au moins. Elle en était là quand se produisit une chose invraisemblable. Les couvertures se réunirent d'elles-mêmes, se dressèrent en une espèce de montagne et sautèrent rapidement par-dessus le pied du lit, tout à fait comme si une main les eût empoignées et jetées de côté. Aussitôt après, le chapeau fit un bond, tournoya en décrivant presque un cercle, et s'élança droit au nez de Madame Hall. Puis la chaise, laissant tomber habits et pantalons, riant sèchement d'une voix toute semblable à celle de l'étranger, se tourna avec ses quatre pieds dans la direction de Madame Hall, parut un instant la viser et fondit sur elle. La pauvre femme poussa des cris et fit demi-tour. Alors les pieds de la chaise, s'appliquant avec douceur mais avec fermeté contre son dos, l'obligèrent à sortir de la pièce et son mari ensuite. La porte battit violemment sur leurs talons et fut refermée à clé. Chaise et lit, pendant une minute, semblèrent exécuter une valse triomphale et tout brusquement rentra dans le silence. Madame Hall tomba presque évanouie dans les bras de son mari sur le palier. Ce fut avec la plus grande difficulté que lui et Millie, qui avaient été réveillés par un cri d'alarme, réussirent à la porter en bas et à lui faire prendre le cordial usité en pareil cas. « C'était des esprits, » dit Madame Hall. « Je suis sûr que c'était des esprits. J'ai déjà lu dans les journaux des histoires de tables et de sièges qui se soulèvent et qui dansent. Encore une gorgée, Jenny. Cela vous fera du bien. Laissez-le dehors. Fermez la porte. Ne le laissez plus rentrer. Je m'en doutais. J'aurais dû savoir. Avec ses gros yeux, sa tête couverte de bandeaux, il n'allait jamais à l'église le dimanche. Et sa collection de bouteilles, Il a introduit des esprits dans le mobilier. Mais bon vieux meuble. C'était juste sur cette chaise que ma pauvre chère maman s'asseyait quand j'étais petite. Pensez qu'elle a pu se lever contre moi. Encore une gorgée, Gianni, vos nerfs sont bouleversés. Vers 5 heures, sous les rayons dorés du soleil levant, ils envoyèrent Millie éveiller M. Sandy Watches, le forgeron. Elle devait lui présenter les compliments de M. Hall et lui dire que là-haut, les meubles se comportaient de la façon la plus inaccoutumée. Aurait-il l'obligeance de venir? C'était un homme habile que M. Watches, et plein de ressources. Il considéra le cas avec beaucoup de gravité. « Le diable m'emporte, déclara-t-il, si ce n'est pas de la sorcellerie. Un homme comme ça, ça n'est pas un client pour vous. » Il s'intéressa très vivement à l'affaire. On lui demanda de passer le premier jusqu'à la chambre, mais il ne paraissait pas très pressé. Il préférait causer dans le corridor. Sur ces entrefaites, arriva l'apprenti de Huxter. Il se mit à ouvrir la devanture du bureau de tabac. On l'invita à prendre part à la discussion. Naturellement, M. Huxter parut au bout de quelques minutes. Les habitudes parlementaires de la race anglo-saxonne se manifestèrent une fois de plus. On bavarda beaucoup et l'on ne prit aucune résolution. « D'abord, les faits, » dit M. Sandy Watches. « Assurons-nous que nous sommes dans notre droit, » en forçant sa porte. Une porte fermée à clé, on peut toujours la forcer, mais ensuite il n'est pas facile de la remettre en état. Tout à coup, aventure prodigieuse, la porte de la chambre se poussa d'elle-même, et comme il la considérait muet de surprise, ils virent, descendant l'escalier, la figure emmitouflée de l'étranger qui roulait des yeux plus noirs et plus blancs que jamais derrière les énormes verres de ses monstrueuses lunettes. Il marchait avec raideur, avec lenteur, toujours farouche. Il traversa le vestibule et s'arrêta. « Et ceci, » dit-il. Tous les yeux suivirent la direction de son doigt ganté. On découvrit la bouteille de salsepareil tout auprès de la porte de la cave. Alors l'inconnu pénétra dans le salon, et brusquement, grossièrement, il leur envoya la porte au nez. Pas un mot ne fut prononcé jusqu'à ce que tout bruit eût cessé de retentir. Ils se regardaient fixement les uns les autres. « Eh bien, celle-là est encore plus forte, par exemple, » dit M. Watches. Et il n'acheva pas sa phrase. Il ajouta, s'adressant à M. Hall, « À votre place, je l'interrogerai. Je lui demanderai une explication. » Il fallut quelque temps pour amener à cette idée le mari de la patronne. À la fin, il frappa, passa la tête et put dire « Excusez-moi. »« Allez au diable !» cria l'étranger d'une voix terrible. « Et fermez la porte derrière vous. » Ainsi se termina cette courte visite. Chapitre 7. L'étranger démasqué. L'étranger était entré dans le petit salon de l'auberge vers 5h30 du matin. Il y resta jusqu'à midi, les stores baissés, la porte close. Personne, après l'expulsion de Hall, ne s'aventura auprès de lui. Pendant ce temps-là, il dut jeûner. Plusieurs fois il sonna, la dernière fois d'une manière furieuse et prolongée, on ne lui répondit point. Avec son « Allez au diable, vraiment !» disait Madame Hall. Alors arriva une vague rumeur de vol commis au presbytère, et l'on rapprocha les événements les uns des autres. Hall, accompagné de Watches, sortit pour aller trouver M. Sackleforth, le magistrat, et lui demander son avis. Personne après lui ne se risqua dans la place. À quoi l'étranger passa-t-il les heures, on l'ignore. De temps en temps, on l'entendit marcher à grands pas, de long en large. Deux fois on perçut des jurons, un bruit de feuillets déchirés, un fracas de bouteilles brisées. Cependant grossissait le petit groupe des gens effarés, mais voulant savoir. Madame Huxter survint. Quelques jeunes gens très gais, en noir, vêtements confectionnés, cols de celluloïdes, cravates de papier, c'était le lundi de la Pentecôte, se joignirent au groupe avec des questions confuses qui augmentaient le désordre. Le jeune Archie Harker se signala en traversant la cour pour glisser un regard furtif sous les stores baissés du salon. Il ne put rien distinguer, mais il bavarda, laissant croire qu'il avait vu, et d'autres jeunes gens d'Iping firent cercle autour de lui. C'était bien le plus beau lundi de Pentecôte qu'il fut possible de rêver. Tout le long de la grand-rue était aligné une douzaine de baraques, un tir sur le gazon auprès de la forge, trois roulottes jaunes et chocolat. Quelques pittoresques forains des deux sexes dressait un jeu de massacre. Les hommes portaient des jerseys bleus, les femmes des tabliers clairs et des chapeaux à lourdes plumes, tout à fait à la mode. Woodia, du fan rouge, et M. Jenkins, le savetier, qui vendait aussi des bicyclettes d'occasion, étaient occupés à suspendre, en travers de la rue, des pavillons éclatants qui avaient jadis servi dans le pays à célébrer le premier jubilé de la reine Victoria. À l'intérieur, dans l'obscurité voulue du salon, où n'avait pénétré ce jour-là qu'un pauvre petit rayon de soleil, l'étranger, affamé, nous devons le supposer, craintif, enveloppé dans ses vêtements chauds et incommodes, lisait attentivement son journal à travers ses lunettes fumées, où entrechoquaient ses petites bouteilles sales, et de temps à autre, pestait bruyamment contre les enfants qu'il entendait sans les voir, en dehors des fenêtres. Dans un coin, auprès du foyer, les morceaux d'une demi-douzaine de bouteilles brisées. Une odeur piquante de chlore empoisonnait l'air. Voilà tout ce que nous savons, d'après ce que l'on devina d'abord et ce que l'on trouva plus tard dans la chambre. Vers midi, l'étranger ouvrit tout à coup la porte de son salon et apparut, regardant fixement les trois ou quatre personnes qui étaient dans le bar. « Madame Hall » appela-t-il. Quelqu'un aussitôt alla timidement prévenir Madame Hall. Après un moment, celle-ci arriva, un peu essoufflée, mais d'autant plus furieuse. Elle avait préparé la scène et apportait sur un petit plateau la note à régler. « Est-ce votre note que vous désirez, monsieur ? Pourquoi ne m'a-t-on pas donné à déjeuner ? Pourquoi n'a-t-on ni servi mon repas, ni répondu à mes coups de sonnette ? Pensez-vous que je puisse vivre sans manger ? » ?»« Et ma note, pourquoi n'est-elle pas payée ? » répliqua Madame Hall. « Voilà ce que je voudrais savoir. » « Je vous ai dit, il y a 3 jours, que j'attendais de l'argent. Et je vous ai répondu, il y a 3 jours, que je n'avais pas à attendre vos entrées de fonds. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que votre déjeuner est un peu en retard, puisque ma note est bien en retard de 5 jours, n'est-ce pas ?» L'étranger lança un juron bref mais énergique. « Non, non, entendit-on au dehors. Je vous serais obligé, monsieur, si vous vouliez garder vos jurons pour vous. » Les yeux de l'étranger prirent une expression de plus en plus irritée. On estima généralement dans le bar que Madame Hall avait l'avantage sur lui. La suite de l'entretien montra qu'on ne se trompait pas. « Dites donc, ma brave dame, reprit l'autre, il ne s'agit pas de brave dame. Je vous ai dit que mon argent n'était pas arrivé. Votre argent, vraiment. Mais je crois bien que, dans ma poche, vous m'avez dit il y a 3 jours que vous n'aviez plus sur vous qu'un souverain environ. « Oui, mais j'en ai retrouvé d'autres. » Crise ironique à l'extérieur. « Ah ah ! Et je serais curieuse de savoir où. » Le mot parut vivement contrarier l'étranger. Il frappa du pied. « Que voulez-vous dire ? Où donc avez-vous trouvé cet argent ? Et d'ailleurs, avant que je reçoive rien, avant que je vous serve à déjeuner ou que je fasse pour vous quoi que ce soit, vous aurez à m'expliquer une ou deux choses que je ne comprends point, que personne ici ne comprend, et que tout le monde est très désireux de comprendre. Je veux savoir ce que vous avez fait à ma chaise, là-haut. Et je veux savoir comment, votre chambre étant vide, on vous y a trouvé pourtant. Mes pensionnaires entrent par les portes, c'est la règle de la maison. Et c'est ce que vous ne faites pas. Je veux savoir comment vous êtes rentré. Et je veux savoir encore. Soudain, l'étranger, levant en l'air ses mains toujours gantées, frappa du pied encore une fois et cria « Assez !» avec tant de violence qu'il fit taire Madame Hall. « Vous ne comprenez pas, dit-il, qui je suis, ni ce que je suis. Je vais vous le montrer, parbleu, je vais vous le montrer. » Il mit alors sa main ouverte sur sa figure, et lorsqu'il la retira, il y avait au milieu de son visage un trou noir. « Tenez !» Et faisant 2 pas en avant, il tendit à Madame Hall quelque chose que celle-ci, les yeux en arrêt sur cette face transformée, accepta machinalement. En voyant ce que c'était, elle poussa un grand cri, laissa tomber l'objet et recula en chancelant. Le nez, c'était le nez rosé et luisant de l'étranger, roula sur le parquet avec un bruit sourd de carton creux. Il ôta ses lunettes et chacun dans le bar demeura bouche bée. Il enleva son chapeau et, d'un geste violent, arracha ses favoris et ses bandeaux. Un pressentiment passa comme l'éclair à travers le bar. « Oh mon Dieu ! » cria-t-on. Et tout le monde s'enfuit. C'était plus épouvantable qu'on ne peut se le figurer. Madame Hall, frappée d'horreur, poussa un gémissement et se dirigea vers la porte de la maison. Jugez donc. On s'attendait à voir des balafres, des difformités, des horreurs réelles, mais rien, rien. Les bandeaux et la perruque traversèrent à la volée le corridor et allèrent tomber dans le bar où les gens firent des sauts de carpe pour ne pas être atteints. Et tous dégringolaient le perron en cohue. En effet, l'homme qui se tenait là, hurlant une explication incohérente, était des pieds jusqu'au col un gaillard solide et gesticulant. Mais au-dessus du col, c'était le néant. Rien, rien que l'on pût voir. Les gens, dans le bas du village, entendirent des cris, des clameurs. En regardant la rue, ils virent l'auberge vomir au dehors tout son monde. Ils virent Madame Hall tomber et Teddy Henfrey sauter pour ne pas culbuter sur elle. Ils entendirent les hurlements d'effroi de Millie, qui, surgissant soudain de la cuisine au bruit du tumulte, s'était heurtée à l'étranger sans tête. Un véritable sauve-qui-peut. Sur le champ, chacun, d'un bout à l'autre de la rue, le marchand de confiserie, le propriétaire du jeu de massacre et son aide, l'homme de la balançoire, gamins et gamines, élégants de village, pimpantes jeunes filles, vieillards en blouse et bohémiennes à tablier, commencèrent à courir. En un clin d'œil, une foule de 40 personnes peut-être fut rassemblée, grossissant d'ailleurs toujours. Et ce furent des allées et venues, des huées, des questions, des exclamations, des suppositions à n'en plus finir, devant l'établissement de Madame Hall. Chacun paraissait pressé de parler en même temps que les autres. Résultat, la tour de Babel. Un petit groupe soutenait Madame Hall, que l'on avait relevée évanouie. C'était la discussion la plus confuse, coupée par les dépositions incroyables d'un bruyant témoin oculaire. « Au revenant ! Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait de mal à la fille, hein ? Il a couru sur elle avec un couteau, je crois. » Pas de tête, je vous dis. Et ce n'est pas une manière de parler. Je dis bien un homme sans tête. Bah, c'est une supercherie, un tour de physique. Il a envoyé promener ses bandages. En se bousculant pour l'apercevoir par la porte ouverte, la foule prit la forme d'un coin mouvant dont la pointe, composée des curieux les plus aventureux, était près de l'auberge. Il s'est arrêté un instant, j'ai entendu le cri de la fille, puis il a fait demi-tour. J'ai vu des jupons passer rapidement, et il a couru derrière. Cela n'a pas pris 10 secondes. Le voilà qui revient avec un couteau à la main et un pain. Il se met là où il était tout à l'heure, comme s'il regardait. Il n'y a qu'une minute, il a passé par cette porte-ci. Je vous dis qu'il n'a pas de tête du tout. Vous avez manqué ? Il y eut un mouvement en arrière, et l'homme qui parlait s'interrompit pour se mettre de côté et laisser passer une petite procession qui se dirigeait résolument vers la maison. Ouvrant la marche, Monsieur Hall, très rouge et très décidé, puis Monsieur Bob et Jaffers, l'agent de police du village, puis le prudent Monsieur Watchers. Il venait maintenant muni d'un mandat d'arrêt. Le peuple continuait à échanger tout haut des renseignements contradictoires sur les faits récents. Qu'il ait oui ou non une tête, dit Jaffers, je dois l'arrêter et je l'arrêterai. Monsieur Hall s'avança vers le perron, se dirigea droit vers la porte du salon et la trouva béante. « Agent, ordonna-t-il, faites votre devoir. » Jaffers entra, Hall après lui, Rogers le dernier. Dans la demi-obscurité, ils virent le corps sans tête tourné de leur côté, avec une croûte de pain dans une main gantée, dans l'autre un bout de fromage. « C'est lui, dit Hall. Par le diable, qu'est-ce que tout cela signifie ?» Telle fut la question irritée que l'on entendit sortir d'un peu plus haut que le cou de cet homme. « Vous êtes, ma foi, un drôle de personnage, monsieur, » déclara Jaffers. « Mais, avec ou sans tête, mon mandat dit « prise de corps ». Le service est le service, et « touchez pas !» cria le corps en se rejetant en arrière. Soudain, il jeta par terre pain et fromage, et monsieur Hall n'eut que le temps de s'emparer du couteau qui était sur la table. Alors, la main gauche de l'étranger ôta son gant et le lança à la figure de Jaffers. En un instant, celui-ci, coupant court à la notification de son mandat, eut saisi le poignet sans main, étreint la gorge invisible. Il reçut sur le tibia un coup retentissant et se mit à hurler, mais sans lâcher prise. Hall fit glisser le couteau sur la table jusqu'à Watchers, qui, pour ainsi dire, jouait le rôle de représentant de la force publique. Puis il fit quelques pas en avant, au moment où Jaffers et l'étranger, s'étreignant, se frappant, luttaient et se démenaient tout près de lui. Une chaise était sur leur passage, elle fut bousculée avec fracas et ils tombèrent ensemble. « Prenez les pieds !» cria Jaffers entre ses dents. M. Hall, tandis qu'il s'efforçait d'obéir, reçut dans les côtes un grand coup qui l'immobilisa une minute. M. Waters vit que l'étranger décapité avait, en roulant, pris le dessus sur Jaffers. Il battit en retraite vers la porte, le couteau toujours à la main, et se heurta ainsi à M. Haxton et au charretier de Cedarbridge, qui accouraient prêter main forte à la loi et à l'ordre. Au même instant, tombèrent du haut du chiffonnier 3 ou 4 bouteilles, d'où se répandit dans la pièce une odeur piquante et âcre. « Je me rends !» s'écria l'étranger, quoiqu'il tînt Jaffers par terre. Et aussitôt il se releva, haletant, de plus en plus bizarre, sans tête et sans main, car il avait enlevé son gant droit après le gauche. « Ce n'est pas la peine, » ajouta-t-il d'une voix étouffée. C'était bien la chose la plus étrange du monde que d'entendre cette parole qui semblait sortir du vide. Mais les paysans du Sussex sont peut-être les gens les plus positifs qu'il y ait sur terre. Jaffers se releva à son tour et exhiba une paire de menottes. Mais il ouvrit de grands yeux. « Dites donc, vous, » reprit-il, déconfit subitement par l'absurdité de toute la scène. « Sapristi, je ne peux pas m'en servir à ce que je vois. » L'étranger fit courir sa manche du haut en bas de son gilet, et comme par miracle, les boutons que suivait cette manche se trouvèrent défaits. Alors il palpa sa jambe et se baissa. Un autre eût semblé porter la main à ses souliers et à ses chaussettes. « Mais, » s'écria Haxter, tandis qu'il était ainsi penché, « ce n'est pas un homme. Ce ne sont que des vêtements sans corps. Regardez, on peut voir par son col la doublure des habits. Je pourrais y mettre mon bras. » Il étendit la main, mais il crut rencontrer quelque chose dans l'air et la retira avec un cri perçant. « Je vous prie, d'ôter vos doigts de mes yeux, » disait la voix aérienne du ton d'une prière farouche. « La vérité est que je suis là tout entier, tête, mains, jambes et le reste, mais il se trouve que je suis invisible. C'est bien ennuyeux, mais c'est ainsi. Ce n'est vraiment pas une raison, il me semble, pour que je sois mis en pièces par tous les imbéciles d'Iping. » Déboutonné maintenant et soutenu par un corps invisible, tous ses vêtements restent debout, avec le geste des poings appuyés sur les hanches. Plusieurs hommes du peuple étaient entrés. La salle était tout à fait encombrée. « Invisible, eh ?» dit Haxton, qui ignorait les méfaits de l'étranger. « Qui a jamais entendu parler de choses pareilles ?»« Cela peut être bizarre, mais ce n'est pas un crime. Pourquoi suis-je attaqué de cette manière par un agent de police ?»« Ah, cela c'est autre chose, » riposta Jaffers. « Point de doute que vous ne soyez un peu difficile à distinguer en plein jour. Mais je suis porteur d'un mandat, et tout est en règle. Ce que je poursuis n'est pas invisible. » C'est le vol commis au presbytère. On s'est introduit dans une maison, on a pris de l'argent. Eh bien ? Et les circonstances donnent à penser, baliverne que tout cela, s'écria l'homme invisible. Je le veux bien, monsieur, mais j'ai reçu des ordres. Soit, je vous suivrai, mais pas de menottes. C'est la consigne, déclara Jaffers. Pas de menottes, répéta l'étranger. Excusez-moi. Tout à coup, le fantôme s'assit, et avant que personne eût pu se rendre compte de ce qui se passait, les pantoufles, les chaussettes, le pantalon avaient été poussés du pied sous la table. Puis l'étranger se redressa et jeta loin de lui son habit. « Là, empêchez-le !» cria Jaffers, comprenant soudain ce qui arrivait. Il saisit le gilet se débattit. La chemise, s'en échappant, le laissa flasque et vide aux mains de l'agent. « Tenez-le bien !» criait à tue-tête Jaffers, « si jamais il sort de ses habits. « Tenez-le bien !» répétait chacun. Et tout le monde de se précipiter sur cette chemise blanche qui s'agitait et qui était maintenant tout ce que l'on pouvait voir de l'étranger. Une manche de cette chemise porta un mauvais coup en pleine figure à Hall, qui se trouvait là. Les bras ouverts, il tomba à la renverse sur le vieux Toothsome, le sacristain. L'instant d'après, la chemise fut soulevée et s'agita d'une manière désordonnée le long des bras, comme une chemise qu'un homme ôte par-dessus sa tête. Jaffers la saisit. Il ne fit qu'aider à l'enlever. Il fut frappé à la bouche avec une telle violence qu'il en perdit le souffle. Aussitôt, il tira son bâton, et ce fut Teddy Humphrey qui l'atteignit brutalement sur le sommet de la tête. « Attention, attention !» Tout le monde criait, se garait et tapait dans le vide. « Tenez-le ! Fermez la porte ! Ne le laissez pas échapper ! Je tiens quelque chose ! Là, là !» Ils faisaient tous le bruit d'une vraie Babel. Tous, semblait-il, étaient atteints en même temps. Sunday Watchers, avisé comme toujours et l'esprit particulièrement aiguisé par un coup effrayant reçu en plein nez, rouvrit la porte et abandonna la partie. Les autres, le suivant aussitôt, furent entassés un moment dans l'angle près de la sortie. Les coups continuaient à pleuvoir. Phipps eut une dent de devant cassée, et pour Humphrey, c'est le cartilage de son oreille qui fut endommagé. Jaffers fut frappé sous la mâchoire. En se retournant, il se heurta à quelque chose interposé entre Haxter et lui, qui les empêcha de tomber l'un sur l'autre. Il sentit une poitrine vigoureuse. Bientôt, tous les combattants échauffés gagnèrent la salle déjà remplie de monde. « Je le tiens !» hurlait Jaffers, bousculé et trébuchant au milieu de la foule, la figure cramoisie, les veines gonflées, luttant toujours contre l'ennemi qu'il ne voyait point. On s'écarta de droite et de gauche, au moment où ses adversaires peu ordinaires, entraînés vers la porte extérieure, allaient en tournoyant dégringoler la demi-douzaine de marches de l'auberge. Jaffers, d'une voix étranglée, poussa un cri. Il tenait bon néanmoins et jouait du genou. Mais il pirouetta sur lui-même et tomba lourdement la tête sur le gravier. C'est alors seulement que ses doigts lâchèrent prise. Il y eut des cris furieux, « Tenez-le bien, on ne le voit pas, etc. » Un jeune homme, étranger au pays, et dont le nom ne fut pas connu, se précipita d'un trait, rencontra un obstacle, trébucha, et vint tomber sur le corps étendu de l'agent. Au milieu de la route, une femme jeta un cri comme si elle se cognait à quelque objet inaperçu. Un chien, battu probablement, hurla et se sauva en aboyant dans la cour de Haxter. Et c'est ainsi que disparut l'homme invisible. Pendant un moment, les gens demeurèrent ébahis. Puis il y eut tout à coup une panique qui les dispersa à travers le village, comme un coup de vent disperse les feuilles mortes. Seul, Jaffers resta sur place, en bas du perron, tout à fait immobile, les genoux ployés, la face tournée vers le ciel.